le magazine des Nations Unies.
La MONUSCO renforce sa présence dans le Grand Kasaï pour protéger la population. Pendant ce temps, le conflit kasaïen affecte le Olomami et le Lualaba dans l'ex-province du Katanga. Ocha parle d'une situation préoccupante. Une nouvelle maladie en provenance des pays voisins de l'Est menace le manioc en RDC. Il s'agit de la striure brune. Elle se répand à travers le pays et peut affecter 80% de la production du manioc, une denrée alimentaire la plus consommée en RDC. Un projet vient donc d'être lancé pour lutter contre cette maladie. Nous en ferons le point dans Décryptage. Dans cette édition, vous suivrez dans l'invité de la semaine deux délégués des radios locales bénéficiaires d'un projet exécuté par l'UNESCO. L'UNESCO qui a organisé un forum à Kinshasa pour faire justement l'évaluation de ce projet. Et voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Nous le disions, la MONUSCO renforce sa présence dans le Kasaï en vue de la restauration de la paix et de la sécurité dans cette partie troublée du pays. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations et de l'état de droit. C'était le mercredi dernier à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. David Gressley donne ici les quatre volets de l'intervention de la mission et ce, conformément à son mandat, repris dans la résolution 2348 du Conseil de sécurité. Ces propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
Depuis là, nous avons renforcé notre présence sur tous les composants de notre mission. Nous avons déjà déployé deux compagnies de notre force, mais aussi la police a été renforcée et le côté civil. On va donner un appui important dans quatre volets. D'abord, c'est la protection des civils. Pour l'instant, nous avons à peu près 300 hommes qui sont sur le terrain dans les 5 provinces. Donc, c'est pas un grand nombre. On va continuer d'examiner notre présence, mais la protection des civils reste toujours une préoccupation à nous. Deuxième volet, c'est l'enrôlement des électeurs dans le Grand Kasaï. Comme vous le savez, ça n'a pas encore commencé. Pour nous, c'est important qu'on trouve des solutions, soit sécurité, soit ailleurs, pour qu'ils puissent avoir accès pour l'enrôlement. Je crois que ça, c'est important pour la crédibilité. Troisième volet sera sur l'accès humanitaire, qui est aussi important. Et le quatrième volet, c'est lié à le droit de l'homme. Nous avons déjà déployé plusieurs équipes sur le terrain pour faire un monitoring et reporting qui est dans notre mandat, mais aussi de documenter les faits.
Le conflit du Kasaï affecte les nouvelles provinces du Olomami et de Lualaba dans l'ex-Katanga. Ocha fait état de l'arrivée de nombreux ménages dans le Olomami, fuyant les violences au Kasaï, tandis que des affrontements entre FARDC et un groupe armé assimilé à la milice Kamuina Sapu sont signalés dans le Lualaba. Jean-Pierre Elali Coco.
Dans sa note d'information humanitaire datée du 12 avril, le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA, fait état de l'arrivée à la mi-mars de nombreux ménages à Kanyama, Kayeyi et dans d'autres villages du territoire de Kanyama, dans le Haut-Lomami. Ces ménages proviennent de la province du Lomami. Ils ont fui les violences selon les autorités provinciales du Haut-Lomami. L'effectif de ces ménages n'est pas encore défini, mais la situation humanitaire de ces déplacés reste préoccupante, précise encore OCHA. Par ailleurs, le 28 mars dernier, un affrontement a été signalé entre un groupe armé assimilé à la milice Kamuina Sapu et le FARDC, cette fois-ci dans la province du Lualaba, frontalière au Kasaï central, précisément dans le territoire de Kapanga. Cet affrontement a fait des morts dans les rangs des miliciens et des civils toujours, selon Ocha. D'après une source humanitaire, plus de 28 000 personnes déplacées de la province du Lomami se sont installées dans plusieurs localités du territoire de Kapanga. Un autre conflit se transporte du Tanganyika vers le Haut-Katanga, c'est celui entre Pygmé et Luba. Ocha signale un affrontement entre ces deux communautés dans la nuit du 17 au 18 mars dernier à Kosovo et Kizabi, village situé à près de 60 km de la cité de Puito dans le Haut-Katanga. Plus de 3500 personnes ont fui ces violences pour se réfugier, les unes vers la cité de Puito, les autres vers des villages de Kapondo et Kasambala.
Magazine des Nations Unies, Décryptage.
Après la mosaïque, la culture du manioc est aujourd'hui sous la menace d'une autre maladie, la striure brune. Ce qui justifie le lancement jeudi dernier à Kinshasa par le ministre de l'Agriculture du projet Contrôle de la maladie de striure brune du manioc. Un projet d'une durée de 4 ans, financé par le gouvernement américain à hauteur de 4,6 millions de dollars, qui sera exécuté par l'Institut international de l'agriculture tropicale, ITEA, en collaboration avec l'INERA. Le représentant résident de l'ITEA, M. Nzola Maungu, a répondu aux questions d'Honoré Missenga Kalala sur ce projet. Suivez.
Bonjour, monsieur le représentant.
Oui, bonjour, monsieur.
Nous venons d'assister au lancement du projet contrôle de la maladie des striures brunes du manioc. En quoi consiste ce projet?
Ce projet consiste à lutter vraiment contre la maladie. Malheureusement, pour la partie occidentale de la RDC, nous n'avons pas encore identifié la souche du virus qui cause ces symptômes. Donc nous allons nous y mettre pour l'identifier, parce qu'on ne peut pas lutter contre quelque chose qu'on ne connaît pas. Connaître cette souche, comme on l'a fait pour la mosaïque et pour la striure brune à l'est du pays, et comment combattre la maladie en mettant au point de nouvelles variétés et en mettant aussi au point des techniques culturelles qui peuvent empêcher l'apparition de maladies. Parce que c'est une maladie qui est associée à l'âge de la plante aussi. Certaines variétés qui tolèrent la maladie, quand la plante arrive à 14-15 mois, la maladie apparaît.
Alors, cette maladie se caractérise comment?
Par les taches brunâtres dans les racines. Donc, quand vous dessouchez la plante, vous voyez les racines qui sont apparemment bonnes, mais quand vous coupez dans la partie de la pulpe que nous mangeons, vous trouvez des taches brunâtres.
Alors donc, la maladie menace le manioc de toute la République démocratique du Congo, où il y a des coins précis?
Il y a des coins précis, notamment à l'est du pays, et ici à l'ouest, et une partie par des petites poches dans certaines provinces, mais il y a des parties comme le Kasaï, où les symptômes sont quand même rares.
Monsieur le représentant, quel serait l'impact de cette maladie-là?
Oh, l'impact serait très grand, parce que nous allons avoir des pertes de plus de 80% du manioc qui sera jeté, même pas pour les éléments de bétail.
Plus de 80%?
Oui, plus de 80%.
Alors, c'est votre organisme, ITEA, qui va exécuter ce projet en collaboration avec l'INERA.
L'INERA et votre partenaire.
Et l'autre partenaire comme?
Comme la FAO, les ONG, comme vous êtes de la radio rurale, parce que vous allez faire la sensibilisation des paysans pour l'utilisation des boutures saines, ainsi de suite. Nous allons travailler en équipe multidisciplinaire.
Alors, comment vous allez exécuter ce projet? Donc, ces différentes étapes, les différentes actions à entreprendre?
La première action, tout d'abord, c'est sensibiliser les gens. Du côté recherche, faire la collection des sources de résistance ici au pays et en dehors du pays. Donc, cela veut dire qu'on trouve une variété de manioc qui se comporte un peu bien, on la prend. Et on commence à faire des croisements génétiques. Donc on manipule quelques parents et de là on prend la progéniture, on commence à évaluer. En principe, ça prend 4 à 5 ans pour identifier une variété, mais nous allons utiliser un système qu'on appelle en anglais fast track. Donc nous allons couper certaines étapes pour vite identifier les variétés prometteuses.
Hier, monsieur le représentant, c'était la mosaïque. Aujourd'hui, c'est la striure brune. Vous avez combattu la mosaïque. Est-ce qu'on peut avoir le bilan de ce premier combat?
Le combat était satisfaisant. En tout cas, nous avons des variétés qui résistent à la mosaïque et au rendement, de bonne qualité. Là où les paysans ou bien d'autres producteurs ont pu accéder à ces variétés, c'est vraiment satisfaisant. Et ça a commencé à promouvoir l'industrie du manioc.
Donc on peut dire que la mosaïque est complètement éradiquée en RDC?
Ce n'est pas éradiqué. C'est comme pour les maladies humaines. C'est quand vous accédez à la variété résistante que vous vous débarrassez de la mosaïque. Mais si vous allez, il y a encore des paysans, parce que les vulgarisateurs ne sont pas arrivés là-bas, ils utilisent encore des anciennes variétés qui succombent à la mosaïque.
Mais par rapport à ce projet, est-ce que vous êtes optimiste?
Je suis optimiste.
Un projet qui va aboutir.
Je suis généticien tout d'abord, donc je suis optimiste. Pour un généticien, quand on peut identifier les sources de résistance, c'est déjà un bon départ. Et comme j'ai dit pendant ma présentation, on va mettre dans le projet un généticien moléculaire qui va nous aider vraiment à faire le profilage des gènes, ainsi de suite, pour voir où trouver les sources de résistance.
Quel est votre sentiment en tant que gestionnaire de ITEA? C'est à vous qu'on a fait encore appel, donc on a confiance en vous.
Oui, sentiment de joie, sentiment de responsabilité, mais surtout des partenariats. Nous travaillons avec des partenaires, tout le monde est important dans ce que nous faisons, du petit paysan au grand, grand producteur.
Merci, monsieur.
Merci.
Ouvrons cette page par le volet de la protection de l'enfant avec ces chiffres livrés par la section protection de l'enfant de la MONUSCO. 789 violations graves des droits de l'enfant enregistrées dans le contexte du conflit armé en République démocratique du Congo. La source attribue ces chiffres en hausse principalement au conflit en cours dans les Kasaï. À propos de ce conflit, la section protection de l'enfant de la MONUSCO affirme notamment avoir documenté 380 enfants séparés des groupes armés, parmi lesquels 82, dont 23 filles, recrutées par la milice Kamuina Sapu. Et du Kasaï, on se rend au Sud Kivu. Dans le cadre de sa mission de la stabilisation et protection des civils, la MONUSCO a organisé la semaine dernière à Uvira un atelier sur la problématique de la transhumance, ce mouvement saisonnier du bétail qui se déplace d'une région à une autre à la recherche du pâturage. Ces déplacements occasionnent souvent des conflits provoquant même mort d'homme entre agriculteurs et éleveurs. Voilà ce qui a justifié l'organisation de cet atelier. Pendant 3 jours donc, des délégués venus des provinces du Tanganyika, du Maniema et du Sud Kivu se sont penchés sur les mécanismes de gestion pacifique de ce phénomène, avec comme objectif de voir les acteurs concernés proposer eux-mêmes des solutions durables pour une transhumance apaisée. Enfin, volet développement, la localité de Waou dans le territoire de Massissi au Nord Kivu, désormais alimentée en énergie durable. Il s'agit d'une microcentrale hydroélectrique d'une capacité de 350 kVA par heure. Cet ouvrage, dont le projet financé à hauteur de 500 000 dollars américains dans le cadre de la coopération entre la province du Nord Kivu et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, sera inauguré ce mardi 18 avril. Il alimentera en courant électrique les populations de Massissi Centre, de Luachi et de Luchéberé. La majeure partie du financement de ce projet est venue de la République de Corée, précise la source.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous le disions, l'UNESCO a organisé la semaine dernière à Kinshasa un forum pour faire le point du projet d'encadrement des radios locales en République démocratique du Congo. Une dizaine des radios locales de quelques provinces du pays sont donc bénéficiaires de ce projet et ont pris part à ce forum auquel plusieurs radios locales émettant de Kinshasa ont également été associées. À l'issue des travaux, Honoré Missenga-Kalala a rencontré deux délégués des radios bénéficiaires du projet, l'un venant de Kimpese et l'autre de Kasumbalesa. Suivez leur entretien.
Bonjour monsieur.
Bonjour, moi c'est monsieur Rigobert Malalako, je suis directeur de la radio Bangu à Kimpese, c'est dans le Congo central.
La radio Bangu à Kimpese est bénéficiaire du projet exécuté par l'UNESCO dans le cadre de l'encadrement des radios locales. Est-ce que vous pouvez nous donner un témoignage, qu'est-ce que vous avez bénéficié dans le cadre de ce projet?
En tout cas dans le cadre de ce projet, radio Bangu de Kimpese a bénéficié de beaucoup de choses, mais je voudrais épingler notamment la création du réseau de correspondants. Ça, c'est un réseau que nous n'avions pas en son temps. En fait, nous avions de nouvelles qui venaient d'ici, de là, mais c'était pas vraiment systématisé. Mais avec le projet, il s'est fait que nous avons pu avoir une dizaine de correspondants dans notre zone de couverture qui nous envoient des nouvelles à tout moment et qui font que le journal actuellement passe sans problème. Ça, c'est vraiment un acquis dans le cadre du projet. Il y a aussi la programmation. Dans le programme, on ne tenait pas compte de ce que les auditeurs voulaient entendre. Avec le projet, nous avons organisé un sondage parce qu'il nous a été remis un logiciel qui nous permet de réaliser un sondage qui nous a permis de comprendre ce que nos auditeurs voulaient écouter à la radio. Et ça nous a permis de modifier notre grille de programme. Et actuellement, la radio qui en fait était aussi très suivie, mais elle est encore plus suivie qu'avant. Au-delà de ça, il y a aussi l'intégration des femmes. En son temps, les femmes étaient pratiquement exclues de la radio. J'ai dit exclues parce qu'on n'avait que 2 femmes au début du projet. Mais actuellement, ils sont plus d'une dizaine. Donc, pratiquement 12 femmes qui œuvrent au niveau de la radio. Donc, les acquis sont quand même assez nombreux. Pour terminer, par rapport au TIC, je me rappelle du fait qu'on a reçu un disque dur de forte capacité pour le stockage de nos programmes, de nos productions. Et ça nous a permis vraiment, ou ça nous permet jusqu'à ce jour, d'être un peu plus calme au cas où il y aurait un problème au niveau de nos machines. Tout est vraiment stocké dans un disque dur serveur de plus de 2000 gigas.
Oui,
Je reviens au programme. Quels sont les grands sujets, les grands thèmes qui se trouvent dans votre programme aujourd'hui après la réalisation de ce sondage?
En tout cas, il y a trois grands thèmes qu'on n'exploitait pas ou peu avant le projet. C'est la santé, l'environnement et l'agriculture. Mais actuellement, je dois dire en passant que Radio Bangou est juste en face du grand hôpital général de Ime Kimpese, pour ceux qui connaissent Kimpese, mais on avait passé des missions axées sur la santé. Mais après le projet, parce que nous sommes les radios qui ont participé à la première phase du projet, nous avons ajouté des nouvelles émissions et entrées à la santé, et on n'avait vraiment pas assez de notions de la manière dont nous devrions nous y prendre pour présenter des émissions sur l'environnement, notamment par exemple sur le réchauffement climatique, des choses comme ça. Mais le projet nous a aidé à dénicher des gens qui pouvaient nous aider à en parler, même en langue locale. Donc ça, c'est vraiment un acquis. Et il y a l'agriculture. Nous sommes dans un milieu agro-pastoral. L'agriculture occupe une place de choix. C'est ça qui a fait qu'au niveau du projet, qu'on puisse considérer aussi que la radio Bangou, étant locale, étant rurale, étant de proximité, devait s'occuper aussi de ces problèmes de l'agriculture qui, quelque part aussi, arrive à chevaucher un peu avec le réchauffement climatique. Voilà un peu ce qui a été porté comme innovation dans notre programmation au niveau de la radio Bangou.
Et par rapport au civisme, à la politique avec le processus électoral, il n'y a pas d'émission?
Actuellement, par rapport au processus électoral, effectivement, nous sensibilisons la population, mais ça, nous le faisons de temps en temps avec les amis de la CENI qui passent à la radio et qui mobilisent la population. Je me souviens d'aller au Congo central aussi, les passages de lui-même, le gouverneur de province, ainsi que son équipe, qui sont passés pour mobiliser. Ça, nous le faisons. Mais nous estimons qu'en tant que radio communautaire, radio de proximité, en rapport avec notre ligne éditoriale, nous n'entrons vraiment pas dans la politique politicienne. Et je dois avouer aussi que c'est Radio Capi, c'est votre radio, qui nous aide à avoir les informations, je dirais, politiques. Parce que nous relayons Radio Capi au niveau de Kimpese, ainsi que d'autres radios comme Top Congo et la Radio Nationale. Et nous disons que ça nous suffit dans un premier temps pour que nous n'ayons pas, je ne dis pas trop de problèmes, mais que nous ne puissions pas quitter notre ligne éditoriale.
Merci.
Je réponds au nom de Madame Solange Chilos Kapongo. Je suis directrice de la radio Déocratie à Kasumbalesa.
Madame Solange, vous êtes bénéficiaire du projet sous l'encadrement de l'UNESCO. Pouvez nous dire les avantages que vous avez déjà tirés de ce projet?
C'est depuis 2012 que nous avons démarré ce projet, Mais avant le projet, nous avons beaucoup de lacunes dans la production des émissions, la diffusion. Et aussi, on n'utilisait pas les TIC avant la venue de ces projets. Maintenant, avec le projet, nous avons acquis beaucoup de connaissances autour de la programmation. On a amélioré la qualité de nos émissions. Et il était aussi question de traiter des sujets à intérêt public, comme la santé, l'agriculture et l'environnement. Et aussi, on devait intégrer le respect des genres dans tout ce que nous pouvons faire au niveau de la radio, au niveau des personnels, au niveau des émissions, au niveau du public. On devait intégrer cette notion de genre. Et il y avait aussi un autre élément qui a apporté un plus au niveau de la radio, c'est l'audience. Donc, c'est cette collaboration entre la radio et le public, ces émissions interactives qu'on pouvait organiser au niveau de la radio pour savoir si le public est intéressé par nos émissions. C'était encore un apport positif. Et par rapport au TIC, il y a eu des logiciels que nous avons appris, entre autres au niveau des sondages. On a appris les logiciels Frontline SMS et aussi au niveau de la gestion financière, on nous a donné un logiciel Caféo qui a permis d'équiter vraiment
les gestions rudimentaires.
Oui, et au professionnalisme. Donc le projet nous a apporté beaucoup parce que ce que nous vendons au public, c'est la qualité des productions des émissions et la façon de travailler. Donc si l'UNESCO est venu, il est venu non pas nous donner les poissons, mais il est venu nous apprendre à comment pêcher. Donc, c'est un peu ça.
Alors, l'actualité oblige, la RDC est engagée dans le processus électoral. Il n'y a pas d'émission du genre civisme, pousser les gens à aller s'enrôler, il n'y en a pas?
Oui, au fait, lors des enquêtes faites par Target, UNESCO est venu avec deux sujets d'intérêt public, c'était la santé et l'agriculture, et il fallait que la radio choisisse un autre sujet. Nous, on avait choisi l'éducation dans sa généralité, mais en particulier l'éducation civique. Parce que, au fait, nous traversons une période électorale, nous devons éduquer la population à s'impliquer dans les processus, d'autant plus que c'est aussi un droit civique. Oui, le message particulier, c'est que le radio, en soi, c'est un outil qui permet à développer une communauté et qui peut aussi apporter la paix et la cohésion sociale. Parce que nous sommes des radios communautaires, nous travaillons dans une communauté et notre ligne éditoriale, c'est vraiment amener le développement au quotidien et la communication pour le changement des comportements.
Merci.
Merci.
Et la nouvelle de Provence nous emmène aujourd'hui à Béni, au Nord-Kivu, avec cette séance de sensibilisation d'une centaine d'officiers de l'armée congolaise de l'opération Sokola 1 Sud et Nord, aux droits de l'enfant. Une séance organisée mercredi dernier par la section de protection de l'enfant de la MONUSCO. C'était en marge de la célébration de la journée mondiale contre l'utilisation des enfants dans les conflits. Participant, le capitaine Mac Azukai explique au micro de Sekumbi Katondolo l'importance de cette campagne de sensibilisation.
Vous savez que les forces armées de la République démocratique du Congo ont souscrit à toutes les résolutions relatives au respect des droits de l'homme, singulièrement au respect de l'enfant. Nous avons assisté à plusieurs ateliers. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont formées sur le respect des droits de l'enfant. Et voilà pourquoi on a fait appel à la crème militaire des opérations Sokola 1 Sud et Nord. Ce sont les officiers, soldats qui sont venus ici suivre cet enseignement qui est du reste très capital pour les forces armées de la République démocratique du Congo.
Magazine des Nations Unies, questions aux Nations Unies.
Les élections en République démocratique du Congo auront-elles lieu ou pas en décembre 2017? En tout cas, la question a été posée à la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. Suivez la réponse de David Gressley, adjoint du représentant spécial en charge des opérations.
Patrick Félix Abel pour RTVS 1 et les sites d'information CAS Info. Vous avez une autre résolution qui vous recommande que vous y mettez pour que l'accord soit appliqué. Déjà, il y a un nouveau premier ministre qui n'est pas venu du consensus de l'accord, qui n'est pas du rassemblement. Lui, il a été expulsé. C'est le premier facteur de la violation. Et un professeur dit sur une antenne internationale, il n'y aura pas élection vers la fin de cette année. Et vous aussi, à la MONUSCO, vous avez aussi cet avis-là où il y a le contraire de ce monsieur, un grand Congolais, aussi un professeur d'université qui pense qu'il n'y aura pas élection.
Comme j'ai dit plusieurs fois déjà ce matin, nous attendons que les élections soient faites dans le temps prescrit dans la résolution, c'est-à-dire en 2017. Ça c'est clair et ça c'était aussi ce qui a été demandé par le Conseil de sécurité. C'est dans l'accord du 31 décembre, donc on va travailler vers cette fin. Je ne veux pas aller dans les détails de chaque cas, mais je crois que ce qui est aussi important est qu'on doit travailler ensemble, pas seulement le MONUSCO seul, et comme j'ai dit, aussi avec le reste du système des Nations Unies. On a été demandé aussi de faire un report tous les 45 jours, pas tous les 3 mois, tous les 45 jours au Conseil de sécurité et de faire une évaluation de mise en œuvre de cet accord. Donc ça va donner une idée plus rapide au Conseil, au progrès qu'on voit ici sur le terrain et s'il y a des déficits, on peut citer ça. Je crois que ça c'est aussi important. Et peut-être pour terminer, je peux aussi souligner que le fait que ce n'est pas seulement les Nations Unies, mais il y a d'autres organisations régionales qui sont impliquées comme l'Union africaine, OIF, etc., qui aussi vont jouer leur propre rôle.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Franck Bumbi, médecin de formation et également spécialiste en santé publique. Je suis marié à Madame Kalonda Christine, père de deux enfants, un garçon et une fille, une jolie fille.
En rapport avec mon parcours professionnel, actuellement je travaille chez ADRA où je suis chef de projet choléra. En fait, quand je me réveille le matin, je prie comme tout chrétien parce que je suis chrétien et je m'apprête, je prends mon petit déjeuner et je vais au travail comme d'habitude. Quand j'arrive, il y a déjà des tâches qui sont bien reprises. Je suis chargé de l'exécution effective du projet choléra au niveau opérationnel, c'est-à-dire dans les 8 zones de santé réparties en 2 provinces, la province de l'Équateur et la province de Maïndombe. Et dans la province de l'Équateur, il y a 7 zones de santé où nous intervenons. Et dans la province de Maïndombe, il y a une zone de santé, donc la zone de santé de Yumbi. En rapport avec mon expérience professionnelle, j'ai en fait travaillé dans la province de l'Équateur comme médecin traitant, médecin chef de staff, médecin directeur, médecin chef des zones intérimaires. J'ai été également médecin chef de district dans les districts sanitaires de la Chapa à l'époque. J'ai assumé également les fonctions de médecin inspecteur provincial intérimaire à l'époque où nous avions l'épidémie d'Ebola dans la province. Et voilà, d'une manière brève par rapport à mon cursus, en rapport avec les organisations internationales et les humanitaires, j'ai travaillé avec MSF comme médecin, l'équipe médicale d'intervention EMI pour le projet choléra dans la province de l'Équateur, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu. Et oui, mon parcours académique, je suis diplômé d'État à l'école au lycée Tuyakumpala dans la province du Kasaï Oriental, à Mbujimayi. Et après ça, je suis allé à l'université de Lubumbashi où j'ai fini à la faculté de médecine comme médecin généraliste. Et après, j'ai également fait un master à l'école de santé publique de Kinshasa. Et je suis donc détenteur d'un diplôme de spécialiste en santé publique. En rapport avec mes préférences, en fait, j'aime bien le sport, notamment le foot. Mon équipe fétiche, c'est Barcelone. La musique, oui, j'aime également la musique, les anciens succès et toute la bonne musique. Voilà. En rapport avec le manger, je suis vraiment fanatique des liboké, les liboké de Ngolo avec l'imposé, ceux-là qui connaissent mieux le lingala, ce sont les dinas de palmier. On met avec du poisson et on fait un liboké, je crois que le liboké tout le monde comprend, avec la chikwanga. C'est mon repas préféré. En rapport avec les perspectives d'avenir, en fait, j'aimerais travailler dans les agences au niveau des Nations Unies et à la longue créer également une agence d'aide au développement dans l'avenir. C'est ce que je suis en train de penser, peut-être vers la fin de ma carrière, quand je vais prendre ma retraite. J'aimerais vraiment avoir une agence d'aide au développement humanitaire. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Vous pouvez noter ceci dans votre calepin. Le 17 avril, c'est la journée mondiale de l'hémophilie. Le 22 avril, journée mondiale de la Terre. Et le 23 avril, pour terminer, ce sera la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est la fin du magazine des Nations Unies, UNMAG. On vous dit merci de votre attention. À Kinshasa, vous nous captez sur la 103.5 FM. Je suis Tina Salama. Le plaisir était le mien de vous le présenter. À la mise en onde, Bob Lindou. À la coordination et au reportage, Jean-Pierre Elali Coco. Au reportage également, Norimi Senga Kalala. Sous la supervision de Martin Sebujangwe. À bientôt sur Radio Capi. Ciao.